RCF.
Non mais vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de retrouver mon chemin intérieur.
Est-ce que vous trouvez que j'ai la tête d'une imbécile ?
Ah, ça c'est pas faux.
Santé.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est heureux de vous retrouver pour filer une nouvelle semaine en mode tout doux. La question du jour, comment un gamin adopté à l'assistance publique a-t-il pu devenir l'un des animateurs les plus populaires de la télé française? Eh bien c'est l'histoire de notre invité du jour et il y a tout à gagner en nous la racontant. Bonjour Vincent Lagaffe.
Bonjour Vincent.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a déjà un point commun, c'est le prénom. Hein. Vincent qui veut dire victoire. Hein. Je pense que vous l'avez bien intégré cette notion-là.
Oui, ça fait partie des mots que j'ai vite compris.
Vite compris. Vincent Lagaffe, le roi du Big Deal qui pendant 7 ans, de 98 à 2003, a fédéré tous les soirs près de 6 millions de spectateurs, animateurs, mais aussi humoristes, showman, comédien et chanteur de sanitaire à l'occasion. Un parcours à succès, sauf que derrière les sourires, les paillettes, eh bien, il y a une enfance et une vie qui, contrairement aux jeux télévisés, ne vous a toujours pas fait de cadeau. Et vous le raconterez très bien dans « Je m'appelais Franck », publié aux éditions XO. C'est une autobiographie qui est aussi une belle leçon de vie et d'énergie. On va le découvrir ensemble. Tout doux, la juste vie de Vincent Lagaffe. C'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Voilà, générique et début d'une émission devenue mythique, celle du Big Deal, où on vous voyait, Vincent, débarquer en costume rose et cravate improbable. Moi, j'ai déjà une question. Qui les choisissait, vos cravates? Est-ce que c'était vous? Vous aviez une habilleuse spécialisée en cravate?
Alors, j'avais pas d'habilleuse spécialisée en cravate. J'avais Moumoune,
oui,
qui a été
oui,
mon habilleuse pendant 30 ans, qui m'a sorti une première cravate de couleur. Et puis au sortir de cela, toutes les cravates que je portais, c'était que des cadeaux des téléspectateurs.
Vincent Lagaffe, on va revenir sur ces années télé, mais pas que. Alors d'abord, un petit retour en arrière, et ça pourrait commencer par « Il était une fois ». Un petit garçon, né le 30 octobre 1959 à Bernay en Normandie, il s'appelle Franck, sauf que le conte commence pas très bien, puisque votre maman, Lucienne, a 18 ans, et votre père biologique, lui, il est marié. Qu'est-ce qui fait, Vincent, qu'elle décide de vous confier à l'assistance publique? Comment est-ce que vous expliquez cette décision qui était particulièrement douloureuse pour elle? C'est ce que vous racontez aussi dans votre livre.
Particulièrement douloureux et surtout, avant tout, particulièrement courageux. Mmh. Parce que elle a pas flanché. Elle a gardé sa ligne de conduite. Elle a eu cet enfant quasiment par accident. Et puis, se rendant vite compte, au bout de 6 mois, que j'étais malade, que j'étais dans un état critique et que pour elle, financièrement, ça devenait très compliqué de faire les allers-retours entre Bernay et Rouen, et qu'elle n'était pas du tout sûre de pouvoir subvenir à des besoins médicaux et matériaux en cas de poursuite de cette maladie. Elle s'est dit, j'ai pas la possibilité de lui donner la chance que j'aimerais qu'il ait, donc je vais le confier à l'assistance en espérant qu'une famille pourra faire de lui ce que j'aurais voulu faire. Voilà.
Alors cette maman, vous allez la retrouver quelques années plus tard, hein, on va en reparler tout à l'heure. Toujours est-il qu'à l'âge de 3 ans, bien, vous allez être adopté par un couple qui, lui, ne peut pas avoir d'enfant. Alors le père, il s'appelle François, il est chimiste. Elle, c'est Monique, elle est mère au foyer. Et là, bah, vous changez de prénom, c'est plus Franck, c'est Vincent Pierre-Jean Rouille. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce changement de prénom.
Je ne sais pas. Toujours est-il que... ce couple est venu me voir à l'assistance publique, j'avais un an et demi, un petit peu plus, et ma maladie, mon état de santé, déjà la lenteur de la fonction publique française a fait que j'ai pas pu être adopté avant 3 ans. On me change de prénom, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui encore, quand j'entends dans la rue quelqu'un appeler quelqu'un Franck, instinctivement, 60 ans plus tard, je tourne la tête. Et quand il y a quelqu'un qui se présente, qui me dit « Bonjour, je m'appelle Franck », Mais toujours, je me dis, tiens, encore un. Et avant que j'apprenne que mon premier prénom était Franck, parce que je ne l'ai su que, je sais pas, j'avais peut-être 20, 25 ans, peut-être un peu plus, il y avait toujours quelque chose qui, quand on me disait comment tu t'appelles, j'hésitais toujours. Alors, j'avais envie de dire Franck,
oui.
Mais je disais Vincent, parce que Vincent, c'était mon nom de la mairie. Mais il est vrai que, naturellement, j'avais envie de dire Franck.
Une nouvelle vie va commencer avec vos deux parents. Alors, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que les rapports avec le paternel sont pas vraiment toujours au beau fixe. Qu'est-ce qui n'allait pas chez votre paternel? Est-ce qu'on peut parler d'un papa un peu psychorigide?
Je sais pas, je pense que c'est un homme qui a été élevé d'une manière assez stricte. Les enfants n'ont pas la parole, tu baisses les yeux quand tu t'adresses à un adulte, tu parles pas à table, tu ne réponds pas, c'était les éducations comme on en faisait à l'ancienne et c'est pas ce qu'il y avait de mieux. C'est bon, je dis pas que celle de maintenant est extraordinaire, mais bon, on nous apprenait ce qu'on appelait le respect. Mais moi, le respect, on me l'expliquait pas pourquoi, ni comment, ni à quoi ça sert. C'était comme ça. Mais pourquoi? Pan. Tu réponds pas. C'est comme ça. Oui, mais pourquoi? Pan. Ok. À la deuxième, tu dis ok, j'ai compris. C'est comme ça.
Ouais, c'est comme
mais ça.
Mais
ça te donne pas envie d'approfondir et d'avoir une relation hyper affective avec la personne qui ne t'explique qu'à coup de pied au cul. Alors, encore une fois, dans tous les interviews, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas un enfant battu. Je ne suis pas Thierry Beccaro. J'ai pas pris des mandales plein la gueule à coups de ceinture parce que mon père rentrait bourré ou que simplement il était de mauvaise humeur et qu'il fallait qu'il lâche son agressivité sur quelqu'un ou quelque chose. Moi, mon père, il m'expliquait les trucs. Si je comprenais, je comprenais. Si je comprenais pas, je prenais une taloche derrière la tête.
Votre scolarité, elle va être assez chaotique. Il faut apprendre à vous défendre de camarades de pas toujours bienveillants. C'est ce que vous racontez aussi dans votre livre. Mais vous avez une arme pour vous défendre et puis surtout pour exister, c'est le rire. En quoi faire le pitre, déjà, enfant, c'est important pour vous?
À partir du moment où tu dis une connerie, les gens tournent la tête vers toi. Donc, tu attires l'attention. Ensuite, quand cette connerie, elle est rigolote, ça fait rire les gens qui ont tourné la tête vers toi. Donc moi, dans mon esprit, je me suis dit, les gens se tournent vers moi, donc je les intéresse, ils rigolent, donc ils m'aiment bien.
Ouais.
C'était tout, j'avais pas besoin de plus.
Ouais, c'est une façon d'exister, en fait.
Non, pas d'exister, parce que d'exister, il suffisait que je passe devant la glace pour savoir que j'étais vivant. Mais j'avais besoin, dans le regard des gens, dans l'esprit, j'avais besoin non seulement d'exister, mais d'être apprécié, d'être aimé, qu'on me dise « Ah oh, putain, t'es drôle, ah oh, tu m'as fait rire, ah oh, je t'aime bien », voilà. J'avais besoin d'entendre des choses gentilles.
En tout cas, il y a une passion que vous allez découvrir, qui va vous marquer enfant, c'est l'équitation. Vous allez avoir la chance de vous voir confier un jeune poulain qui s'appelle Pélu, un poulain que vous adorez monter, que vous allez bichonner, sauf qu'il va avoir une fin tragique et vous donner une sorte de philosophie de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Vincent Lagaffe? Est-ce que, après toutes ces années, vous pouvez nous le raconter? Parce que c'est un événement qui est quand même assez tragique, mais aussi très fondateur pour vous.
C'est très compliqué d'en parler, c'est toujours très dur. Y avait un cheval qui s'appelait Perluron. Et quand j'ai eu ce cheval, j'ai dit « je vais l'appeler Perluron ». Et Van Vell a dit « on ne peut pas avoir dans un club deux chevaux qui ont le même prénom ». Il m'a dit « appelle-le Pélu ». Et j'ai dit « pourquoi Pélu ?» Parce que P de Père et Lu de Luron. Et ça m'avait complètement emballé. Donc j'avais dit « ce cheval s'appellera Pélu ».
Ce poulain, vous allez le bichonner, il va donner vraiment un sens à votre jeunesse. Sauf qu'il va avoir une fin tragique, puisque lors d'une course, eh bien, malheureusement, il y a un chien qui va être détaché du public. Et l'animal va terminer empalé. Enfin, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais ça vous a donné une sorte de philosophie de la vie. Quelle sorte de philosophie, justement, de la vie?
Compliqué d'en parler.
C'est vivre l'instant présent. Je crois que c'est ça qu'on peut dire.
Oui,
hein.
C'est vivre l'instant présent. Ne perds pas de temps avec ce qui n'en a pas,
oui.
Ce qui n'en a pas lieu. Ne parle pas aux cons, ça t'apportera rien. Puis en plus, ça les instruit.
comme disait Audiard.
Oui, comme disait Jacques-Michel Audiard.
Oui.
C'est de toute façon, n'attends rien de personne. Fais les choses. Au moins, tu sais d'où ça vient et comment ça sera fait. Mets-toi un coup de pied au cul et avance.
Oui.
Quand j'ai un truc qui m'emmerde dans ce métier, quand je rencontre des gens avec qui j'arrive pas à correspondre, je me dis, pense à Pélu,
ouais.
Avance.
Ouais. avance.
Laisse-les sur le bas-côté, laisse-les sur le bas-côté, ils t'attraperont.
Cela dit, la vie, elle continue. Alors, quoi faire? Vous allez vous orienter vers un lycée agricole où vous apprenez la soudure. La soudure comme assembler des éléments. Je ne sais pas s'il y a une symbolique derrière cette activité, le fait, la soudure, l'assemblage.
Oui, c'est une belle analyse que vous faites, sauf que pour moi, elle est à l'opposé.
Ah.
La soudure, ça peut être l'assemblage de plusieurs éléments. Ça peut être aussi la reformation d'un élément, la déformation d'un élément ou la séparation. Et moi, j'étais tout à fait spécialisé dans ce qu'on appelle l'oxycoupure. C'est des très gros chalumeaux avec des très grosses bouteilles et on s'en sert pour découper le métal. Et moi, c'est ce qui me plaisait. C'était découper le métal dans ces gerbes d'étincelles. J'adorais ça.
C'est en tout cas grâce à la soudure que vous allez exercer vos talents pendant une dizaine d'années dans un milieu où on aime bien aussi s'assembler, hein, si l'on peut dire, un petit indice sonore. Voilà, bip bip, on a reconnu l'hymne cultissime du Club Med, club de vacances où vous allez régner, Vincent Lagaffe, pendant une dizaine d'années. Comment vous y êtes rentré, justement, au Club Med? Alors ça, c'est une histoire quand même assez étonnante, parce que ça passe sur une plage où vous devez, justement, désarticuler un bateau, hein, puisque vous êtes employé à l'époque par une société pour désarticuler un bateau. Comment est-ce que vous y êtes rentré dans ce fameux Club Med?
Je travaillais pour une boîte qui était une filiale de la Comex à Marseille, à la Pointe-Rouge. Et puis on a été... moi je travaillais avec un binôme, Gérard, Gégé. Donc on découpe le bateau et les Roumains évacuent la ferraille, récupèrent la ferraille. Et puis il y a la météo qui met le bâton dans les roues. On prend 15 jours de retard. Le Club Med ouvre. Et donc au lieu d'aller dans le village d'à côté, on décide d'aller directement au Club Méditerranée pour des questions pratiques, logistiques. Et c'est là que je découvre l'ambiance géo, Club Med, Pareo, collier de perles, les cheveux dans les fleurs dans les cheveux, etc. Et puis un autre drame a fait que je suis revenu au Club Méditerranée pour bosser au club et j'y suis resté 8 ans.
Voilà, alors de la Guadeloupe au Maroc, en passant par les Bahamas, la Sicile, mais aussi Serre Chevalier ou les Arcs 2000 pour le ski, vous allez faire les 400 coups dans vos différentes affectations avec à chaque fois des histoires incroyables comme le lâcher par avion de petits Suisses sur une plage, sur les gentils membres, ça c'est sympa pour eux, au saut dans une piscine dans un cercle enflammé, en passant par l'écrasement d'un wagon de bagages en Suisse, enfin bon, tout ça, je laisserai les auditeurs le découvrir parce que c'est vraiment très très amusant. Qu'est-ce que toutes ces années au Club Med vous ont appris finalement, Vincent Lagaffe ?
À te démerder seul et à travailler avec l'esprit d'équipe, à vraiment s'apercevoir que quand on est une équipe forgée, soudée, unie et qui s'aime, on déplace des montagnes. Et donc au Club, j'ai appris l'esprit d'équipe.
L'esprit d'équipe et aussi la scène qui a commencé à vous attirer, mais ça on va revenir dans un instant. Mais d'où vient votre surnom de Lagaffe? Parce que c'est né pendant les années Club Med. Est-ce qu'on peut rappeler comment il est né ce surnom?
Oui, c'est mon pote Patrick Nugier qui était musicien, qui est toujours musicien, qui habite le Japon maintenant. On était lors de ma première saison, en arrivant de Roumanie, j'avais fait un stage d'animateur pour apprendre en gros le métier à Pompadour. Et puis là, on est sur la plage principale du Club Méditerranée avec le chef de village et on est dans l'eau jusqu'au maillot de bain et on regarde la plage parce qu'on veut organiser les Jeux Olympiques du Club Med, une parodie des Jeux Olympiques. Et il y a un petit dériveur qui arrive et qui me dit... dans le dériveur, il y a un monsieur qui se pointe vers la plage et qui dit à sa femme qui se trouve sur la plage derrière moi, « Chérie, amène-moi mes lunettes de soleil, s'il te plaît. » Et sa femme se lève, prend les lunettes pour les lui apporter, mais elle a aussi un nourrisson dans les bras. Donc elle s'aperçoit que pour aller jusqu'au bateau, il faut nager. Donc plutôt que de me dire « Vincent, sois gentil, amène les lunettes à mon mari », elle me dit « Vincent, sois gentil, garde-moi le bébé ». Et le bébé, je l'ai gardé 10 secondes dans les bras. Il est tombé dans l'eau et j'ai mis au moins 30 secondes à le retrouver en cherchant dans l'eau avec les copains. Et de fil en aiguille, on a retrouvé le gamin. Il était tout mouillé, je l'ai rendu à sa mère qui était surprise qu'il soit aussi mouillé, mais il pleurait pas le gamin. Et elle me dit, mais il est trempé. Je dis, ben oui, on s'est baigné. Et quand le chef de village a vu avec quel aplomb je pouvais sortir un mensonge, Patrick Nugier a dit, on va t'appeler Lagaffe. Et le chef du village a dit, à partir d'aujourd'hui, t'as pas le droit d'approcher un enfant.
Exactement. Oui, parce que j'imagine que ce nourrisson, il doit en sortir après 10 ans de psychanalyse, hein, pour passer par les bras de Vincent Lagaffe. Alors, comment est-ce qu'on passe du Club Med à la télé? Ça, on va en parler dans quelques instants. Ça sera juste après une première page musicale, comme on le demande à tous nos invités. Et là, vous nous proposez Jamming de Bob Marley. Pourquoi ce choix, Vincent Lagaffe?
Parce que j'aime, j'espère que tu aimes danser aussi.
Oui.
I hope you like jamming too.
Oui.
Non, c'est plein de choses. Bob Marley, c'est le mec qui n'a jamais changé de trajectoire malgré tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a pu avoir et tous les bâtons qu'on a pu lui mettre dans les roues. Il avait une trajectoire et une seule trajectoire et il n'en a jamais, jamais, jamais bougé d'un iota. Et il a avancé jusqu'au bout avec son équipe, encore une fois l'équipe, l'orchestre, les frères, les brothers, tout ce qui est équipe et qui se rapproche du bouddhisme, ça me plaît. Et je trouve que, quelque part, le côté rasta a un peu de bouddhisme dans l'histoire.
Eh bien, on va se replonger dans ce bouddhisme reggae avec Bob Marley. On se retrouve tout de suite après. Jamming de Bob Marley, le choix reggae de Vincent Lagaffe alias Franck. Je m'appelais Franck. C'est le titre de cette autobiographie publiée chez XO où Vincent, vous racontez votre enfance d'enfant adopté, les folles années Club Med et puis aussi vos débuts à la télévision, des débuts qui ont commencé par ceci, rappelez-vous.
La voiture s'arrête, ça a été une panne. Personne dans la race campagne, je me penche sur le problème, savez-vous? Et d'un coup, j'entends quelqu'un qui fait ça, et le Delco? Qu'est-ce que je vois dans la campagne? Rien, dans un pré, un cheval qui broutait, savez-vous, comme ceci? Alors je me suis dit quand même, ça c'est quelque chose, hein, ça c'est vrai. Hein. Je remets le Delco, savez-vous, je mets un coup de clé, pan, la voiture repère. J'ai dit, ça va s'arrêter. J'arrive au bled suivant, savez-vous, je m'arrête, je vais au bistrot, je vais voir le patron, je lui dis, ça j'ai une chose que je ne sais pas comprendre. Je tombe en panne, on me dit, ça est le Delco, il n'y avait personne, la voiture a redémarré. Le type m'a dit, il n'y avait personne. Je lui ai dit, non, il n'y avait personne, à part un cheval dans un coin. Il m'a dit, il est comment le cheval? J'ai dit, il est tout noir avec une tache blanche. Il m'a dit, vous avez de la chance parce que l'autre qui est blanc avec une tache noire, il n'y connaît rien en mécanique.
Moi, j'allais mettre un petit 18 parce qu'on a ri quand même.
Voilà, on n'est pas très à cheval sur l'humour. Une plutôt bonne note pour l'élève Lagaffe, extrait de La Classe, animé par Fabrice, une émission diffusée sur France 3 en contrepoint des journées télévisées de 20h sur les autres chaînes et qui a révélé toute une série de talents comiques de l'époque. Olivier Lejeune, Michel Larocque, Didier Gustin, Anne Roumanoff, Virginie Lemoine, Bézu, Bernard Mabille et j'en passe. Comment, Vincent Lagaffe, vous êtes retrouvé dans ces rangs, hein, de cette drôle de classe?
La dernière saison que j'ai fait au Club Méditerranée à Vittel, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Danielle Ryan. Et quand je suis arrivé à Paris, elle m'a dit, tiens, il y a une annonce dans Télé Loisirs qui dit que Guilux cherche des comiques pour une nouvelle émission, pour reprendre une émission existante dans laquelle il y avait eu Patrick Sébastien, Coluche, Leb, etc. Et je me suis pointé là-dedans, mais moi j'avais aucun sketch, contrairement à tous mes collègues qui, eux, travaillaient comme auteurs. Ils travaillaient beaucoup, ils écrivaient, ils peaufinaient, ils répétaient, ils se faisaient mettre en scène. Moi non, je partais du principe que je racontais des histoires drôles en les interprétant. C'est-à-dire je ne faisais pas que les raconter, je me mettais dans la peau du personnage et j'en faisais un sketch. Donc ça marchait bien, ça marchait très bien, mais ça plaisait pas à tous les comédiens qui, eux, se cassaient la tête pour écrire des trucs inédits. Donc c'est vrai que je... Ouais, il y avait une espèce de un peu de jalousie. Où, sans être de la jalousie, ça faisait un peu chier que je remporte du succès alors que finalement je ne faisais que raconter des histoires entendues ailleurs.
On va revenir sur cette image justement d'animateur et d'humoriste de populaire. En tout cas, pour vous, c'est le début de la notoriété que vous complétez en vous produisant dans des clubs et des cabarets nocturnes à la réputation plus ou moins douteuse. Mais en fait, qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de monter sur scène? Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était vraiment ce que vous aviez envie de faire?
Ben, c'est pas que j'avais envie de le faire, c'est que je me suis aperçu que ça, je savais le faire et qu'il y avait du résultat. Quand j'étais à l'école, je faisais le pitre et j'attirais le regard et l'attention des gens. Quand je me suis retrouvé à l'armée, pareil, j'avais l'indulgence des supérieurs parce que même quand je faisais une connerie, je la faisais avec humour et sans prendre au sérieux. Quand je suis arrivé au Club Méditerranée, j'ai vu que faire rire les gens, c'était quand même un kiff. Parce que quand on vous applaudit, quelque part, c'est qu'on vous apprécie. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, faire rire les gens, je sais le faire, je le fais pas mal, puisque ça marche. Donc, pourquoi m'arrêter là? Surtout qu'on peut gagner sa vie avec ça.
Donc, pourquoi ne pas y rester? Alors, il y a la scène, hein, Vincent Lagaffe, mais il y a aussi la chanson, et pourquoi pas en version sanitaire.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo.
Oh, qu'il est laid le bidet.
Oh, qu'il est laid, qu'il est laid le bidet.
Oh, qu'il est beau.
Oh, qu'il est beau.
Oh, qu'il est laid.
Oh, qu'il est laid.
Le lavabo.
Le lavabo.
Le bidet.
Le bidet.
Eh ben voilà comment on fait un top 50. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi, pour que j'y aille, je me sauve, hein. Salut.
Voilà, il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Alors on est bien d'accord, hein, Vincent Lagaffe, le texte c'est pas du Verlaine, mais le succès, lui, en parlant de lavabo, c'est vraiment au sens propre. Record Guinness Book du plus grand nombre de 45 tours vendus en une journée, numéro 1 au top 50 pendant 6 semaines, devant Bruel, Goldman, Cabrel et même Michael Jackson. Comment elle est née cette chanson qui au départ, il faut le dire, c'était un gag.
Verlaine, lui, il n'aurait pas été capable de le faire. Hein.
Oui. Il aurait peut-être parlé d'autre chose, mais peut-être pas de lavabo.
Exactement.
Oui.
Non, c'était pas un canular, c'était un petit bout de sketch que je faisais sur scène qui s'appelait le Toc 50, où je brocardais un peu tous ces chanteurs qui chantaient en playback en lisant des prompteurs et qui se la racontaient parfois un peu beaucoup. Et donc, de fil en aiguille, on a cherché avec quoi faire un disque, et puis un jour Hervé Hubert m'a dit « Mais c'est avec ça que tu devrais faire un disque ». J'ai dit « Mais je vais quand même pas faire un disque sur lequel je chante « Il est beau le lavabo ». Il me dit « Non, faut que tu trouves un deuxième couplet ». Et puis de fil en aiguille, j'ai dit « Il est laid le bidet ». Et puis après, on a fait une compilation des deux, « Il est beau le bidet, il est laid le lavabo ». Et c'est devenu… Mais bon, ça n'a pas marché au premier coup, hein, parce que le premier coup, on a envoyé le disque qu'on avait fabriqué nous-mêmes avec notre argent… Et toutes les radios nous l'ont envoyé en nous expliquant que c'était vraiment une bouse et que c'était presque honteux de nous envoyer ça. Et on a rencontré un disc jockey, un DJ à la boîte Pont d'Orly qui a eu une idée géniale. Et le coup de génie, parce que c'est vraiment une idée géniale qu'a eu ce DJ, il m'a dit plutôt que d'envoyer le disque aux radios, on va l'envoyer aux boîtes de nuit. Et on a envoyé 5000 bouquins, parce qu'à l'époque, il y avait au moins 5000 boîtes de nuit en France. Et le lundi matin, tous les gens qui avaient dansé le week-end sur « Il est beau le lavabo » allaient dans les FNAC et dans les points de vente en disant « On voudrait le lavabo de Lagaffe ». Mais comme il n'existait pas, tous les points de vente ont appelé les maisons d'édition en disant « Il faut sortir un disque parce qu'il y a de l'argent à gagner ». Et c'est comme ça qu'on a fait le 45 tours.
Un 45 tours qui a cartonné. Alors après le lavabo, ça sera la Zoubida, hein, qui est un énorme succès aussi. Le succès qui va se prolonger à la télé avec le Big Deal. Et aussi, comment est-ce que vous avez vécu cette notoriété et puis cette image populaire, pas vraiment reconnue dans le milieu du showbiz. On va en parler, mais le lundi, eh bien, on passe aussi chez le médecin pour quelques petits conseils de prévention. C'est avec le docteur Pascal Douet, qui est spécialiste en matière de prévention du vieillissement. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est en avant-marche.
Quoi de neuf, docteur ?
Tout va bien.
Merci, docteur.
Tout doux, mieux dans mon corps.
Et bonjour, Pascal.
Bonjour Vincent et bonjour Vincent Lagaffe.
Vous connaissez Vincent Lagaffe, j'imagine, Pascal.
Évidemment, je le connais. Difficile de ne pas le connaître.
Difficile de ne pas le connaître. Alors Pascal, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'activité physique et plus précisément de la marche, ou pour être encore un peu plus exact, des marches. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Et oui Vincent, nous connaissons tous les nombreux bienfaits de la marche sur l'ensemble de notre organisme, au plan cardiovasculaire, respiratoire, articulaire, mais aussi cérébral. La marche est accessible à la grande majorité, c'est pour cela que l'OMS la recommande la pratique des 10 000 pas quotidiens, 10 000 pas qui font d'ailleurs l'objet de nombreuses discussions, puisqu'aujourd'hui, les scientifiques nous recommanderaient plutôt 6 à 8 000 pas par jour.
Oui, c'est déjà pas mal. Alors ça, c'est pour la marche classique qu'on connaît tous, mais vous nous parliez de plusieurs marches, c'est-à-dire...
En effet, on parle de plus en plus des bienfaits de la marche rapide, une activité d'endurance qui consiste à marcher d'un pas soutenu, 5 à 7 km heure, c'est la vitesse qui caractérise la marche rapide par rapport à la marche tranquille, qui est en moyenne 4 km heure.
4 km heure qui peut facilement se doubler pour attraper son bus. Mais est-ce qu'il existe d'autres types de marches, peut-être un peu moins conventionnelles cette fois, et quelles pourraient être ces marches ?
Alors, il en existe deux qui peuvent vous paraître farfelues, et pourtant les scientifiques s'y sont penchés. La première est la marche à reculons. Cette technique surprenante apporte des bénéfices supplémentaires pour la santé, en renforçant la stabilité et l'équilibre. Elle aide également à maintenir un poids sain en raison d'une dépense énergétique 40% plus élevée.
Et il paraît même qu'un marathon est organisé chaque année depuis 2006.
Absolument Vincent, le record du monde est détenu depuis 2010 par l'Allemand Achim Arex, qui a parcouru à reculons les 42,2 km en 3h42 minutes et 41 secondes.
La marche à reculons, excusez-moi, ça me fait un peu sourire quand même Pascal, mais pourquoi pas ? Et si on passait à la deuxième marche dont vous nous parliez, ravissons la deuxième marche.
Eh bien, vous vous rappelez probablement du célèbre sketch des Monty Python, datant de 71, le ministère de la Silly Walk ou la marche stupide. Dans ce sketch, John Cleese joue le rôle d'un fonctionnaire du ministère de la Silly Walk et balance ses jambes et ses bras en l'air pour marcher.
Alors, est-ce qu'on a des preuves justement de cette Silly Walk et ses bénéfices sur la santé ?
Eh oui, et c'est là que l'humour anglais n'a pas de limite. Une équipe anglaise a souhaité mesurer les bénéfices santé de la Silly Walk. 13 Silly Walkers en bonne santé ont été étudiés et leurs travaux ont été publiés dans la célèbre revue du British Medical Journal. Tous les sujets portaient des instruments électroniques pour mesurer leur consommation d'oxygène, leur dépense énergétique et l'intensité de l'exercice.
Et alors qu'est-ce qu'elle a montré cette étude ?
Eh bien l'étude a objectivé que la Silly Walk consommait 2,5 fois plus d'énergie que la marche normale et qu'elle était l'équivalent santé de la marche rapide. Et cette marche a même depuis 2010 sa journée mondiale, la Silly Walk Day, qui se tient tous les 7 janvier.
Eh bien, reculons de manière stupide, on l'a bien compris. L'important, c'est de marcher. Merci Pascal, je rappelle que vous êtes l'auteur des nouvelles clés de la longévité. C'est paru chez Le Duc, de même qu'on peut faire le plein de conseils santé vérifiés et validés sur votre blog déclicattitude.com. Et on vous retrouve, comme d'habitude, en état de marche la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous, Pascal.
Merci Vincent, et à la semaine prochaine.
Tout doux, avec Vincent Belletti.
Vincent Lagaffe, la marche, est-ce que vous pratiquez ? Est-ce que ça fait partie de votre exercice physique habituel ?
Alors en ce moment, presque plus, parce que je sors de convalescence et ça fait un an et demi que j'essaye de récupérer ma cheville après 3 opérations. Mais oui, j'aime beaucoup la marche. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je fais partie des mecs qui sont très proches de la nature et j'adore partir 3-4 heures avec mes chiens dans la colline. Et c'est vrai que pour moi, la marche, c'est aussi une manière de faire travailler sa mémoire, parce que je me suis aperçu que en marchant, on pense, on parle seul, mais on pense beaucoup et on se souvient. Et la plupart du temps, je répète des sketchs, des spectacles, des histoires. Et j'ai travaillé d'ailleurs sur le bouquin, en partie comme ça également. Avant que je sois opéré, j'allais dans la colline me balader et j'essayais de mettre bout à bout les idées que j'avais envie d'enfiler.
La marche et puis pas mal d'autres sports aussi. Plutôt casse-cou en ce qui vous concerne. On en parlera tout à l'heure avec vous, Vincent Lagaffe. À tout de suite.
Tout doux. Une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Vincent Lagaffe, humoriste, comédien, showman et bien sûr animateur, qui n'hésite pas à vous remettre en selle. Petite illustration sonore.
2, 1, top chrono, c'est parti, on pédale, on snap, 2, on est parti. Oui, on a un bon coup de vélo. Bon, tu sais que ça va très vite, regarde. Et il va vachement vite, le premier c'est gagné. Et j'ai jamais vu ça, il va te faire le premier grand chelem.
Oh non,
la deuxième est allumée. Combien de temps?
C'est bien, 40 secondes.
Il va tout prendre. La troisième, vous êtes en train de faire le grand chelem, c'est du jamais vu.
Ah, vous fatiguez là.
Le quatrième.
30 secondes.
Il va tout stop.
Stop, stop, stop.
Défaites les pédales pendant qu'on fait le deal, tendez les jambes, ça va.
Voilà un candidat qui en connaît un rayon côté pédale. Un des nombreux extraits du Big Deal, ce jeu mythique qui a débuté le 2 février 98 sur TF1 en Access Time Prime et qui a rassemblé pendant 7 ans quelques 6 millions de spectateurs tous les soirs, inimaginable aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait rappeler, Vincent Lagaffe, le principe pour toutes les jeunes générations qui auraient raté cette émission mythique?
Oh, il n'y a rien de plus simple. On prend un candidat, on prend pas un candidat lambda, on prend un candidat et qu'on le sélectionne en fonction de sa passion ou de son boulot ou de sa région. Mmh. On lui fait faire une épreuve qu'on avait concoctée un peu sur mesure en fonction avec sa personnalité ou son boulot et on lui propose de gagner un cadeau. Donc il démarre, il a 1 minute 30 pour faire ce jeu ou 2 minutes. À la moitié du jeu, on arrête. Et on lui pose la question, est-ce que vous pensez que vous allez réussir ou pas? Si vous pensez que vous allez réussir, vous jouez pour le cadeau et vous gagnerez le cadeau. Si vous pensez que vous allez vous planter, laissez tomber, renoncez à votre cadeau et prenez ce qu'il y a derrière le rideau. Et derrière le rideau, il y avait un cadeau qui pouvait être bien supérieur à ce qu'on lui proposait ou bien inférieur.
Ouais. En général, c'était supérieur. Hein. C'est une belle voiture décapotable. C'est ce que vous proposiez généralement.
On a fait gagner des fortunes de cadeaux, mais on a aussi gagné beaucoup de bottes de poireaux, des roues de carrosse, des carreaux râpés.
C'était le deal. C'était le deal, d'où le nom du Big Deal, tout simplement. Alors, plus qu'un jeu, c'était un véritable show. C'est ça que vous aviez en tête, d'ailleurs, au départ, quand on vous a proposé d'animer cette émission. C'est la condition que vous aviez mise au départ. Et vous n'étiez pas tout seul. Il y avait les fameuses gaffettes. Il y avait Ramoun Show, alias Bud, le DJ Aspect. Et puis surtout, surtout Bill, cet extraterrestre virtuel échoué sur Terre, qui vous donnait la réplique.
Bill, comment va-t-il? Ah, il a eu une pénoche.
Non, 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 vous l'avez vu, Vincent. C'est la première fois et j'ai 9 sur 10 à la rédac.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je peux te la lire? Elle est assez courte.
Vas-y, vas-y.
La lire. Alors, la maîtresse a dit, dites ce que vous aimez faire. Alors moi, j'ai dit, j'aime faire du jet de ski avec mon ami Vincent. À chaque fois que je monte derrière lui, il crie que je suis trop lourd et que le jet de ski, il coule. J'aime aussi mes copines les gaffettes, surtout Pupus qui se fait une drôle de tête quand elle se casse un ongle. Mais ce que je préfère, c'est les éclairs car ce sont des gâteaux qui vont très vite. C'est chouette, non?
Ouais.
Fameux Bill. Qui se cachait derrière Bill? C'est le moment de lever le suspense et le voile, Vincent Lagaffe.
Bill, c'était mon pote, c'est toujours mon pote Gilles Vautier, qui était pianiste, humoriste dans un cabaret parisien qui s'appelait le Carré Blanc, que je voyais assez souvent parce que c'est un endroit que je fréquentais. Et puis un jour, quand on a eu envie de faire cette émission, on s'est dit, tiens, et si tu faisais Bill? Et comme il avait besoin de bosser et de se faire connaître, il a accepté et c'est devenu l'inconnu le plus célèbre de France. Parce qu'il m'a rendu la réplique 1400 fois.
Ah, 1400 fois. Alors les épreuves pour emporter les cadeaux, elles étaient innombrables. Empilement d'assiettes, découvrir des indices au Karcher, oblitérer un maximum de LED, deviner ce qui faisait le bruit d'une machine à laver, renverser des quilles avec une voiture télécommandée. Ça, c'était le moins risqué parce que vous aussi, vous donniez de votre personne avec des numéros qui donnait des sueurs froides. En tout cas, un jeu qui vous a valu 2 sets d'or, meilleure personnalité de l'année en 99, meilleur jeu TV en 2000. Et pourtant, quand on parlait de Lagaffe, nombreux étaient ceux et celles à pincer du nez, trop populaire, trop kitsch, pas intello. Comment est-ce que vous avez vécu cette espèce de, je sais pas, de discrimination qui vous a longtemps collé à la peau, Vincent Lagaffe?
Au début, oui, on sent bien qu'il y a il y a une certaine jalousie, parce qu'encore une fois, je faisais les choses très simplement. J'ai pas fait le cours Simon, j'ai pas fait le cours Florent, j'ai pas été au conservatoire, j'ai pas le baccalauréat, j'ai pas le BEPC, je parle le langage de la rue, je fais beaucoup de fautes de français, de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire. Mmh. J'ai pas de culture littéraire, j'ai pas de culture en général. Je suis un mec qui vient du bas de la France d'en bas, je suis un mec brut de décoffrage. Je me suis fait tout seul, et c'est vrai que parfois, et la plupart du temps, quand on parlait de la gaffe, c'est vrai que l'intelligentsia parisienne avait plutôt tendance à tordre du nez. Alors, je le vivais mal, parce que j'avais envie de leur dire, mais les mecs, je fais plus d'audience que vous, je gagne plus d'argent que vous, je fais plus de téléspectateurs et de spectateurs que vous. Je comprends que ça vous fasse chier, mais plutôt que de me dénigrer, dites-vous qu'il y a peut-être une leçon à en tirer. Mmh. Et puis, après, c'est devenu un jeu. Après, honnêtement, plus j'avais de succès, plus ça emmerdait le monde du show business et plus ça me régalait. Mais, je le vivais quand même pas très bien, parce que quand on fait un des plus gros chiffres de recettes publicitaires, quand on vend le plus de 10, quand on fait... Bref, quand on est financièrement à la pointe et qu'on se fait fermer toutes les portes sous prétexte qu'on n'est pas... ça fait... Moi, ce qui m'aura fait le plus de peine dans l'histoire, c'est de ne jamais avoir été invité aux enfoirés. Voilà. Ouais. Je trouvais ça ridicule, parce que Coluche était quand même l'empereur du populaire. Même si ce qu'il faisait était terriblement travaillé, mais c'était quand même quelqu'un de très très populaire, de très proche du peuple, et ils se sont tous enfournés dans la voie des Restos du Cœur. Et ben, moi, j'ai jamais été invité, et non seulement j'ai jamais été invité, mais quand j'ai proposé, à l'époque où je faisais un concert et on avait des musiciens, on avait écrit une chanson pour les Restos du Cœur, et on avait proposé d'offrir cette chanson et de donner toutes les recettes. Et quand on sait ce que le lavabo, la Zoubida ont rapporté, on aurait été très fiers d'apporter notre pierre à l'édifice. On nous l'a carrément refusé. Donc, de ce jour-là, j'ai dit que le showbiz allait bien se faire foutre.
Ben voilà, la leçon de Vincent Lagaffe. Alors, il y a eu le Lagaffe animateur, mais il y a eu aussi le Lagaffe sportif et aussi casse-cou. Alors, que ce soit à ski ou en flyboard, vous avez multiplié les défis comme celui-ci. Écoutez.
Le Caporn, normalement, il y a des immeubles qu'on prend sur la gueule. Et là, regarde, on se croirait à Saint-Tropez. À part que l'eau, elle est à 4 degrés, quoi. Et puis, il y a un peu de neige. Mais c'est vraiment un grand panard.
Voilà, la Marseillaise pour franchissement du Cap Horn en jet ski. C'était avec Alexandre Debanne et Luc Alphand. C'est le 31 mars 2000. Comment il est né ce défi au milieu des rochers, des remous les plus dangereux du monde, Vincent Lagaffe?
Juste une question là. La Marseillaise, ouais. C'est une Marseillaise que vous avez trouvée n'importe où. C'est pas celle
Non, c'est celle que vous avez chantée dans le bateau en hommage aux Chiliens. Oui, il y a un enregistrement, il y a un documentaire avec la voix d'Alexandre Debanne, donc l'animateur. Là. Et il y a cette Marseillaise pour remercier les Chiliens de vous avoir accompagné et encouragé dans ce défi.
Parce qu'on a chanté la Marseillaise, on était à 2 grammes dans chaque poche. Et ensuite, on a chanté l'hymne chilien où on était à 4 grammes dans chaque poche.
Bon, alors, je ne sais pas ce que ça pouvait donner. On n'a pas l'hymne chilien, mais au moins la Marseillaise. Pour en venir à ce défi, c'est quand même incroyable. Le jet ski Cap Horn, il fallait vraiment avoir, envie d'en finir, envie de passer à autre chose, quoi.
Non, mais c'est tout simplement que... avec Cyril Neveu, Alexandre Debanne, Luc Alphand et moi-même, on s'était arsouillé entre la Corse et le continent. Voilà, le grand jeu pendant quelques années, ça a été d'aller le plus vite entre Calvi et Pamplonne. Donc on tartinait quand même un paquet. C'était autant des épreuves mécaniques que physiques, parce que pendant 2 heures, se faire secouer, comme on dit, se faire tasser le pâté au fond de la boîte, c'était quand même un peu rock'n'roll. Et puis, quand on a eu fini de faire ça, qu'on en avait un peu marre, on a cherché une autre connerie à faire, et De Chavanne a dit « Et si on passait le Cap Horn ?» ouais. Et donc, nous, on disait tous « Mais bien sûr, Alexandre, et puis tant qu'on y est, on va traverser le Groenland, on va adopter un ours blanc, puis on revient. Hein » Et puis il a eu un accident terrible de moto.
C'est vrai.
Moi, j'ai participé à sa convalescence en lui téléphonant tous les jours à l'époque où je faisais l'heure à l'appel parce qu'il fallait que je raconte des histoires drôles et très vite j'ai été à court de marchandises. Donc lui qui est un très bon raconteur d'histoires drôles, il m'en donnait. Et puis il tenait le coup en disant tu sais, je vais m'en sortir, je vais récupérer ma jambe et puis on passera le Cap Horn. Et évidemment, nous, on n'avait qu'une envie, c'était qu'il retrouve sa jambe. Mais le Cap Horn, on n'y a pas cru une seconde. Moi, jamais j'y ai cru. Et puis un jour, il est arrivé en disant « Ça y est, j'ai le budget, j'ai le sponsor, j'ai l'équipe, on part en 2000, l'année prochaine. » Et puis, on est tous restés sur le cul et ben, on a dit « Ben oui, finalement, il est plus allumé que nous tous, donc on va le suivre. »
Mais c'est comme ça que c'est défini. Pourquoi cette volonté d'aller finalement au-delà de vos limites, quitte à risquer votre vie, ce qui a failli vous arriver plusieurs fois, hein, c'est ce que vous racontez aussi dans votre livre. Qu'est-ce que vous voulez vous prouver en fait, Vincent Lagaffe ?
Je ne sais pas si je veux me prouver quelque chose ou si je me retrouve dans une situation que je n'avais pas bien calculée et où je me retrouve en danger. C'est vrai que quand je vais surfer en jet ski les vagues à la sortie du port de Saint-Gilles à l'île de la Réunion, je sais pas et je me doute pas qu'à 18h, il y a des requins. Donc, quand le jet tombe en panne et que je suis dans l'eau et que, heureusement que les CRS me voient et viennent me chercher, je me dis pas une seconde, tiens, je vais aller faire du jet ski dans les vagues au milieu des requins. C'est-à-dire que peut-être je fais les choses d'une manière trop impulsive et je me retrouve dans des situations qui peuvent être dangereuses. Je cherche pas forcément à me mettre en danger, mais comme d'une manière générale, je vais au bout du bout, et que très longtemps, j'ai pensé que le seul danger, c'est la mort. Se casser une patte, se faire des points de suture, ça, franchement, ça me fait pas peur. Donc je me retrouve, je cherche pas à me mettre en danger, mais ouais, je fais les choses à fond, quoi. Je fais. Et puis c'est vrai que on a différents... comment je pourrais vous dire ça, leitmotiv, j'en ai plusieurs. Souvent, je me suis dit un poil plus que raisonnable. Je me disais aussi, reste à fond, c'est peut-être là derrière la bosse. Donc, ouais, il y a un moment où, à partir du moment où c'est une chance sur deux, je me dis que ça vaut le coup de prendre le risque. Parce qu'on a quand même une chance sur deux.
Une chance sur deux. Vincent Lagaffe, dans un instant, on évoquera un passage émouvant dans votre livre. C'est la rencontre avec votre mère biologique. Ça sera juste après notre page musicale. Alors, elle est toujours de votre choix. Et après Bob Marley, bah, c'est Christophe Maé. Il est où le bonheur ? Vous nous expliquez là aussi ce choix ?
Bah, d'abord, Christophe Maé, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais plus que simplement parce que c'est un artiste. C'est un mec qui est d'une simplicité. Je me retrouve beaucoup en lui. Il est du sud de la France. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Il est aussi assez soupelé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire chier trop longtemps. Il a une famille qui est tout autour de lui. Il travaille en famille. Et c'est un mec, c'est pareil, il vous tape dans la main en vous regardant dans les yeux. Il vous dit « Banco, ça vaut tous les contrats du monde ». Et puis, quand j'ai perdu mon pote, je l'ai appelé parce qu'on avait besoin d'un événement pour saluer la mémoire de mon pote et l'inauguration des bureaux qu'il venait de construire sur le port de Cavalaire. Et c'est vrai qu'avec mon pote Jean-Marc, on parlait souvent de chanteurs. Et lui, il appelait ça les branleurs. Mais il aimait beaucoup Christophe Maé. Et j'ai appelé Christophe en lui disant « Est-ce que tu viendrais chanter pour 200 personnes dans un truc complètement privé ? Tu vas chanter sur un chantier naval au milieu de grues ?» Il m'a même pas demandé de tarif, de quoi que ce soit. Il m'a dit « Oui, bien sûr, je viens. » Et il est venu. Et le soir du concert, il était en Corse. Il pouvait pas prendre le bateau parce qu'il y avait une tempête. Il a dit, t'inquiète pas, je prends un avion, j'arrive.
Ouais. Il est venu et il a chanté.
Et il est venu et il a chanté. Et il a chanté devant 200 personnes comme il aurait chanté devant 5000 personnes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, je peux pas vous dire plus. On a bossé ensemble, on a fait 2-3 bricoles ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Lui comme Claudio Capéo, comme Jacques Higelin. Voilà, c'est la digne descendance de Jacques Higelin.
Eh bien, Christophe Maé, il est où le bonheur ? On va le trouver avec lui. On se retrouve tout de suite après.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Il est où le bonheur? C'était Christophe Maé, l'heureux choix de Vincent Lagaffe, animateur télé, humoriste qui publie son autobiographie Je m'appelais Franck. C'est sorti aux éditions XO, comment un enfant adopté est devenu l'une des stars les plus populaires de la télévision. Adopté, bien justement, votre mère biologique Lucienne. Vincent, vous avez pu la retrouver à l'occasion du tournage d'un film qui s'appelait Le Bastringue. Bon, on va être honnête, hein, ça n'a pas vraiment été un chef-d'œuvre. Comment elle s'est faite cette rencontre justement? Est-ce que pourriez nous le raconter en quelques mots? Comment est-ce que vous avez retrouvé la trace de votre mère biologique?
Ah, c'est compliqué de raconter en quelques mots quelque chose qui m'a pris 40 ans.
Oui.
Mais alors, c'est pas le Bastringue, c'est le Baltringue.
Le Baltringue, pardon, oui. Vous aviez toujours en tête de la retrouver, cette
oui,
mère.
Oui. Ouais. C'est pas que je voulais la retrouver, c'est que je voulais avoir la réponse à la question d'où je viens, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis l'enfant d'un viol, ou est-ce que mon père est mon grand-père? Et c'est vrai que c'est une question à laquelle je me suis souvent heurté, et je n'avais pas de réponse. Et donc un jour, ça m'a pris, et j'ai cherché, et puis j'ai rencontré, lors du tournage du Baltringue à côté de Rouen, dans la Seine-Maritime, j'ai rencontré un procureur de la République qui allait partir à la retraite, et qui m'a donné les renseignements dont j'avais besoin pour pouvoir rencontrer ma mère biologique. Et puis j'ai rencontré ma mère biologique avec qui on a parlé toute une après-midi. On s'est vu qu'une seule fois. Et en une après-midi de 6 heures, elle m'a raconté absolument toute sa vie, de sa naissance et même au-delà de sa naissance, avant sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit que j'avais une très 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 belle vie par rapport à la sienne. Et que s'il y a des gens qui se disent « putain, j'ai une vie de merde », qu'ils lisent ce chapitre et ils s'apercevront qu'ils sont assez privilégiés.
Vous l'avez compris, vous l'avez, je sais pas, pardonné à votre mère de vous avoir laissé...
J'avais rien à pardonner, je l'ai compris, oui, et non seulement je l'ai compris, mais je l'ai respecté et je l'ai encore plus apprécié. Parce que, comme je dis dans le début du bouquin, quel courage il faut pour prendre la décision d'abandonner son enfant, quel courage il faut pour le poser dans le lit blanc, quel courage il faut pour affronter son regard qui vous regarde partir, et quel courage il faut pour pouvoir l'embrasser une dernière fois, sachant qu'on ne le reverra plus. Je crois que c'est un courage qui est incommensurable. On peut pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus court un jeu que ça. Et même, c'est pas inconscient, c'est pas de la lâcheté, c'est vraiment juste du pur courage. Je crois que confier le fruit de sa chair dans une république comme la nôtre, hein, je vous parle pas des pays où on vend des enfants, où on... ouais, dans les circonstances qu'elle vivait, m'avoir confié à l'assistance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'elle ait pu me donner.
On se retrouve dans quelques petites secondes pour terminer ensemble cette émission avec vous, Vincent Lagaffe.
Doudou avec Vincent Belletti.
On n'a pas besoin de super pouvoirs pour être un super héros. Megaga, c'est pas juste un costume. Megaga, c'est vraiment moi.
C'est l'heure de mon re-retour.
Megaga 3, le re-retour.
Bon, en attendant Megaga, il va aller faire quelques abdos.
Voilà, il faut se remettre en forme. Le retour de Megagaffe qui a fait aussi les beaux jours ces dernières années de Fort Boyard. Aujourd'hui, Vincent Lagaffe, vous avez 63 ans. Toute votre vie était, vous le dites aussi dans votre livre, en cycle de 10 ans, dernière année de scolarité, service militaire, club med, cabaret télé. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ?
Heureux du parcours que j'ai fait. Évidemment... le corps ne suit plus l'esprit, donc ça c'est un peu frustrant. Mmh. J'aimerais bien repartir sur des grandes compétitions en niveau mondial comme j'ai fait en jet ski, mais bon, il y a un moment faut savoir s'arrêter. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait, que j'aurais voulu faire et que je ne pourrais plus faire. Mais vraiment content d'être arrivé à 63 ans. En ayant passé toutes ces épreuves, en se disant que j'ai réussi à mettre 3 ronds de côté pour une retraite à peu près paisible, que je tiens physiquement la route, même si j'ai plus de ferraille dans le corps que beaucoup de personnes et que je sonne à tous les portiques d'aéroport. J'ai passé ma vie à faire ce que j'aimais. Quand j'aimais, quand je le voulais, j'ai une vie finalement terriblement privilégiée parce que j'ai fait ce que j'ai voulu, comme j'ai voulu, avec qui j'ai voulu, quand j'ai voulu et où j'ai voulu. Donc c'est, j'ai envie de me dire je suis au top du palmarès que je pouvais me fixer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Plus d'argent? Pourquoi? Pour avoir une voiture encore plus rapide? On peut plus rouler. Si l'argent pouvait acheter une santé, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Mais honnêtement, non, je regrette rien, et à part quelques pitreries, quelques conneries dont j'ai pas trop parlé parce que j'en suis pas très fier, et peut-être que j'en parlerai dans un tome 2, si tome 2 il y a, je pense que je referai le même parcours d'une manière vraiment similaire.
Je m'appelais Franck, en tout cas, c'est paru, c'est XO, une autobiographie, on sourit souvent, on est aussi ému. Et puis, vous nous parlez, hein, Vincent Lagaffe, comme on vient de se parler pendant cette heure-ci, hein, on a l'impression que vous nous chuchotez à l'oreille tout ce qui vous est arrivé dans un style vraiment très franc et lucide. Et puis, on vous découvre également sous un œil neuf. Eh bien, grand merci, Vincent Lagaffe, d'avoir partagé ce moment tout doux avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci aussi à Louis-Martin Fermont, notre Bill des manettes en régie technique. Demain, c'est un fils d'humoriste que nous aurons le plaisir d'accueillir. Alors lui, il s'appelle Éric Métayer. Je ne sais pas si ça vous parle. Il est comédien et metteur en scène. Et après Les Chatouilles, eh bien, il revient dans un film co-réalisé avec Andrea Bécon, sa compagne. Ça s'appelle Quand tu seras grand. Ça sort mercredi. Et c'est un très beau film sur les difficultés et sur les joies du vivre ensemble entre générations. Merci encore une fois, Vincent Lagaffe, et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame. À bientôt.